Partage du savoir ou privatisation des connaissances, suite et provisoirement fin de cette réflexion commune autour des questions tenant à la propriété intellectuelle. Vous avez pu écouter ou réécouter cette semaine les trois premières émissions de cette thématique qui étaient respectivement consacrées à l'art et la marchandisation, l'économie de l'immatériel et enfin à l'appropriation du vivant. On va continuer sur cette lignée, bien sûr, à propos de l'appropriation du vivant, cette fois-ci dans un domaine encore plus terre-à-terre, si je peux dire, puisqu'on va aborder la question de la propriété intellectuelle dans le monde agricole. Il sera bien sûr beaucoup question au cours de cette émission en direct sur les 3 bits de génie, génétique. Enfin, génie génétique, si tant soit que le mot génie soit d'ailleurs bien approprié pour qualifier cette espèce d'espace de collusion entre la recherche scientifique d'un côté et puis l'industrie agroalimentaire de l'autre. On aura bien sûr l'occasion de beaucoup en débattre. Avec nous autour de cette table pour, si j'ose dire, alimenter la réflexion, Jean-Christophe Holle, philosophe, enseignant à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et pour animer cette émission avec moi, Pascal Messaoudi. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Je te laisse le soin de présenter notre autre invité.
Un autre invité, oui. Jean-Pierre Berland, directeur de recherche à l'INRA. C-T-E-S-I.
C'est un pseudo-labo qui s'est dissous. C'est autodissous, c'est rare, bon, il faut le signaler.
Dissolution de laboratoire. Il va donc vous participer activement au débat sur les OGM. Enfin, vous livrez vos réflexions là-dessus, ouais. Vous travaillez dessus. Et sur le brevetage du vivant, vous avez écrit entre autres un livre qui est devant nous, La guerre au vivant. Donc pour commencer cette discussion, Jean-Pierre Berland, est-ce qu'on pourrait éclairer les auditeurs sur ce cheminement historique qui a conduit à cette situation aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons, du monde agricole et de la manipulation, on va dire, des gènes et de son agriculture aujourd'hui, qui ne laisse plus forcément la liberté à l'agriculteur de planter ce qu'il veut, de cultiver ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'on peut rappeler ces grandes étapes historiques ?
Les sélections, les hybrides.
Oui. Voilà. D'abord, je voudrais dire un petit mot à propos du terme propriété intellectuelle. Bon, je n'ai pas été vérifié, mais c'est une réflexion de Richard Stallman, dont vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez parlé, qui est donc le gourou de GNU Linux, la tête pensante derrière donc les logiciels libres. Et un jour, j'employais cette expression avec Richard Stallman, intellectual property, et il m'a dit non, il ne faut pas employer ce terme-là. Il m'a pas, et parce que on est en train, par ce terme-là renvoie à une espèce de catégorie qui engloberait tout, les philosophes utiliseraient le terme ontologique, qui engloberait le droit de brevet, le copyright, le droit d'auteur, le droit des marques, et toutes choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et il y aurait une espèce de droit inné, en quelque sorte, qui serait la propriété intellectuelle et derrière lequel tout ça se rangerait en ordre. Et lui pensait que c'était, il m'a dit que c'était une véritable mystification ou une imposture, là aussi, des grands avocats d'affaires qui ont négocié les accords sur la soi-disant propriété intellectuelle, les accords qui ont conduit à la fin du GATT et à la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Donc voilà, donc c'était simplement, je livre ça, cette réflexion-là. Peut-être d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont plus au courant que moi sur, parmi les auditeurs, ce serait intéressant de savoir si en effet ce terme-là a commencé à s'imposer au moment de la négociation de Marrakech, justement pour faire croire qu'il y avait cette espèce de catégorie générale. Et voilà. Voilà, donc ça c'est une remarque préliminaire. Maintenant, sur l'autre, la question qui m'était posée, je crois que c'est une enfin, je l'ai déjà expliqué à de multiples reprises, il y a une véritable contradiction entre la vie et le profit. Dans une société marchande comme la nôtre, où tout doit devenir marchandise, le fait que les plantes et les animaux se reproduisent, se multiplient gratuitement, le fait que tout simplement l'agriculteur puisse semer le grain récolté, est une anomalie totale, si vous voulez. Les plantes et les animaux, d'une manière générale, les organismes vivants, se reproduisent, se multiplient gratuitement. Ça, c'est évident que c'est une horreur absolue. Je dirais même que dans le cas des humains, ils peuvent même éprouver du plaisir à le faire. Et là, c'est encore, disons, le péché capital. D'ailleurs, de plus que capital, puisque les églises l'ont poursuivi depuis très très longtemps, quoi. Elles ont toujours essayé de se mêler de ce qui se passait dans le drap, entre les draps de ces ouailles. Hein. Bon. Donc voilà. Et là, on en est là maintenant, si vous voulez. C'est un processus historique qui a commencé avec la révolution industrielle en Angleterre. Ça date du début du 19e siècle. C'est un processus continu que je compare, moi, à ce qu'on appelait les enclosures, c'est-à-dire les enclosures, c'est un mouvement qui s'est déroulé sur trois siècles, qui a consisté à, au fond, sortir du système communautaire paysan avec les champs ouverts et plus des communs, à enclore les champs, à enclore les communs, et ce qui a permis de créer une catégorie historique révolutionnaire qui était le prolétariat, c'est-à-dire des gens qui n'avaient que leur force de travail à vendre sur le marché du travail. Le tout dans des conditions absolument abominables, bien sûr, en Angleterre. C'est en Angleterre que ce mouvement s'est déroulé, si vous voulez, de façon systématique et très très lente. Il y a toute une série d'édits, de lois qui ont été passées pour, d'ailleurs, freiner la noblesse qui essayait d'enclore, et les rois d'Angleterre étaient quand même essayés de freiner ce mouvement-là.
Et les premières chimères apparaissent
alors,
au 20e siècle.
Donc, si on en vient maintenant, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est au cœur du développement d'une société capitaliste. Donc, c'est cette lutte, cette guerre au vivant. Elle est constante, si vous voulez, et cette guerre au vivant ne cessera qu'avec la fin du capitalisme. Bon. Que j'espère pour très bientôt, bien sûr.
Soyons optimistes dès le début.
Les premières chimères donc datent du 20e siècle, j'imagine, de la recherche génétique.
Non, ça date de 73.
Hein. Ah d'accord, c'est très
bien. Les chimères génétiques, oui, ce qu'on appelle faussement les OGM, parce que là aussi ça fait partie du vocabulaire de tromperie qui est utilisé systématiquement, vocabulaire à la George Orwell, quoi. C'est absolument effarant de voir tout le vocabulaire des soi-disant biotechnologies. C'est un vocabulaire qui est complètement corrompu. Hein, les entreprises qui font les soi-disant OGM, ce sont des entreprises qui produisent les insecticides, les pesticides, les gamétocides, les herbicides, que des produits en cides. Mmh. Hein, et leur objectif, ces gens-là, c'est en effet de stériliser les plantes pour avoir un marché. Hein, pour pouvoir vendre leurs semences. Donc, ils ont mis au point la technique de type dite Terminator, et puis bon, toutes les formes légales qui font exactement la même chose, qui permettent d'interrompre la reproduction. Et donc, voilà, vous voyez bien, donc, voilà, et ces gens-là se bâtissent les industriels des sciences de la vie. Curieuse science de la vie, n'est-ce pas, qui consiste à stériliser le vivant et à produire que des produits de mort.
Jean-Christophe Holl, ce mouvement des enclosures que décrivait à l'instant Jean-Pierre Berland, vous le connaissez bien, vous avez aussi travaillé sur cette époque-là. Sur ce qu'il évoquait à l'instant, la contradiction entre la notion de profit et puis la vie, le principe même de la vie, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui me frappe, c'est que ça rejoint d'une manière, avec une analogie relativement forte, la question de ce qui se joue sur le terrain d'Internet ou de l'informatique en général, ou si l'on préfère sur la question des connaissances ou des idées en général. C'est-à-dire qu'une idée à ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas concurrente. Elle peut se donner sans pour autant qu'on la perde. Elle peut se déployer sans s'affaiblir. Au contraire, plus une idée se développe s'étend, et plus elle est puissante. Et donc la restriction de la connaissance ou la restriction de la pensée qui est l'une des caractéristiques de la période que nous vivons et qui, je pense, a un sens très fort. C'est-à-dire que même si la notion de propriété intellectuelle peut cacher une dérive idéologique qui consisterait à projeter là quelque chose d'inné, de naturel. N'est-ce pas, nos idées sont à nous, après tout. Bon. Ce qui est absurde, nos idées ne sont jamais à nous. Nous en héritons, nous les transformons, nous les modifions. Il n'y a pas de véritable propriété de l'idée. Et curieusement d'ailleurs, il n'y en avait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans la législation des droits d'auteur ou même des brevets, la propriété de l'idée n'existait pas. Donc on est bien en train de voir se mettre en place un processus qui consiste à aller vers un processus de privatisation d'un champ qui est le champ du savoir, qui est le champ de l'idée, qui est le champ de la culture d'une manière générale. Et c'est exactement le même processus. C'est-à-dire qu'à mes yeux, le point commun entre la vie et la pensée de ce point de vue-là, c'est sa capacité à se reproduire, à se développer, à proliférer, à ne pas s'éteindre, à s'étendre. Et donc la procédure est la même, c'est-à-dire qu'il faut organiser de la pénurie, il faut organiser du monopole, il faut essayer de contrôler la diffusion de l'idée. Et donc, par-delà, il faut contrôler quelque chose qui jusqu'à présent avait été très peu contrôlé sur le terrain de l'économie ou des pratiques culturelles, ce sont les usages. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre les biens, de contrôler des biens et marchandises, ce qu'il est question de contrôler maintenant, ce sont des usages et des pratiques.
Aujourd'hui donc, lorsque l'on réalise un hybride, on peut obtenir un certificat d'obtention qui est donné, je crois, par un organisme qui s'appelle l'UPOF. Vous me direz si je me trompe, Jean-Pierre Berland. Si l'on crée une chimère, autrement appelée un OGM, on peut la faire breveter. Et en droit européen, notamment, ces brevets sont entérinés depuis assez peu de temps, à vrai dire, depuis 1998. Une directive européenne joliment nommée 98/44. Peut-être Jean-Pierre Berland, quelques mots pour la décrire.
C'est une imposture, hein. C'est de plus. Quoi. Bon, il n'y a pas autre chose à dire. Elle est tout simplement effarante. Enfin, là, je n'ai pas porté le texte de la directive, mais je peux citer de mémoire l'article 4 qui commence à dire que les variétés, les races animales ne sont pas brevetables. Et ça, c'est l'alinéa 1. Et l'alinéa 2 dit, à partir du moment où on a fait, enfin, je ne sais pas exactement les termes juridiques qui sont utilisés, mais à partir du moment où on a fait une transgénèse, à ce moment-là, ça devient brevetable. C'est-à-dire, on dit exactement le contraire de ce qu'on vient d'affirmer. C'est-à-dire que ça veut dire, en traduit, tout ce qui est transgénique est brevetable.
Donc, il y a la même chose pour l'homme. Hein.
Alors oui, je voulais y venir.
Dans cette convention, il y a exactement la même chose.
Je voulais y venir. Alors c'est encore plus énorme dans le cas de l'être humain, puisque on commence à dire que toute portion de l'homme, etc., gènes, séquences génétiques, etc., ce n'est pas brevetable à partir de c'est dans l'homme. Et ensuite, on vous dit que exactement le contraire après. À partir du moment où il y a eu utilisation d'un procédé technique, hein, ça devient brevetable. C'est-à-dire qu'un procédé technique, ça peut être simplement la piqûre ou se servir d'une lame de rasoir ou n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le Conseil d'État, je crois, avait souligné qu'à partir du moment où on utilisait une seringue, si vous voulez, il y avait un procédé technique qui était utilisé, donc on pouvait mettre un brevet. Comme ça, il y a un procédé technique, si vous voulez, donc qui permet de breveter en particulier les gènes humains. Et ils ont même le culot de préciser, même si cette séquence génétique est identique à celle d'un élément naturel. C'est-à-dire que là, ce qui est en question là-dessus, c'est le changement complet de statut de l'invention, de ce qui est brevetable, c'est-à-dire qu'on peut breveter des découvertes et non pas des inventions. C'est absolument énorme, ce texte.
C'est comme ça qu'on a breveté des plantes qui existent un peu partout, voilà, dont des peuples se servent depuis des milliers d'années plutôt,
ouais,
et que maintenant ils n'ont plus le droit de s'en servir.
Ils ont le droit de s'en servir, mais on n'a pas le droit de vendre. On n'aurait pas le droit de vendre sur le marché américain à partir du moment où c'est breveté, parce qu'il y aurait contrefaçon. c'est grotesque. Mais bon. Mais c'est vraiment énorme. J'insiste sur quand même, et peut-être que là vous pourrez dire un mot là-dessus, c'est qu'on est et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez précédemment, on avait refusé tout le temps le brevet de découverte. Les découvertes ne sont pas brevetables. Pour qu'il y ait brevet, il faut qu'il y ait invention, il faut qu'il y ait manipulation. Ce qu'admet la directive 98-44 maintenant, c'est qu'on peut breveter des découvertes.
Oui. Il faut aussi savoir que jusqu'à présent, on ne pouvait pas breveter la connaissance elle-même. C'est-à-dire que l'invention touchait aux procédés techniques qui permettaient d'avoir une orientation utile, applicable, industrielle à la connaissance. Ce n'était pas la connaissance elle-même. Alors que là, on est en train de remonter. C'est-à-dire qu'on est en train de breveter des choses que non seulement on ne connaît pas totalement, mais même avant qu'on les connaisse complètement, puisqu'on a assisté dans cette espèce de course au brevetage, en particulier aux États-Unis. Mais l'Europe est en train de continuer et s'aligne sur une base relativement analogue, tout en disant le contraire d'ailleurs. On est en train de se mettre dans une situation où on va breveter l'idée qu'il pourrait y avoir là un usage technique possible en ayant une sorte de copie, en brevetant une copie de la réalité naturelle.
Ce qui au fond est un détournement complet de ce pourquoi on avait réalisé au départ ce droit des brevets, hein, qui était un droit de protection, et en tout cas on ne pouvait pas breveter l'idée. Il semble qu'aujourd'hui, et notamment dans ce domaine agroalimentaire, on est en complète contradiction avec ce principe.
Disons qu'il y avait un équilibre qui était recherché par le législateur dans le droit de la propriété intellectuelle, entre guillemets, en général, que ce soit le droit d'auteur ou le droit des brevets, et que cet équilibre est rompu. C'est plutôt ça. Je ne sais pas si les intentions étaient aussi pures que tu veux bien le dire, mais en tout cas, il y a un équilibre qui est rompu, et qui est rompu, évidemment, dans le sens d'une expropriation. C'est-à-dire que ce n'est pas une appropriation, c'est une expropriation.
Pour protéger une invention, il faut protéger le chemin qui mène à l'invention. Et le chemin qui mène à l'invention, c'est la découverte. C'est une succession de découvertes. Donc, c'est pour protéger
cette succession. Il y a une histoire qui est assez caractéristique et assez marrante. C'est donc un mathématicien, je crois qu'il est anglais, qui avait trouvé une formule mathématique qui permettait de faire quand on faisait des graphiques correspondant à cette formule mathématique, à cette fonction, on avait des dessins très marrants, enfin qui étaient et donc un jour il a retrouvé sur du papier chiotte,
du PQ.
Oui, c'est ça. Il a retrouvé son dessin reproduit. Et donc il a protesté, et il a dit que c'était la formule lui appartenait, et que il poursuivait l'entreprise qui avait donc en quelque sorte pillé sa formule, et il a gagné. Ça s'est passé aux États-Unis, hein, ça. Disons, le gars était anglais, mais c'était sur le marché américain qu'il avait découvert donc ce dessin magnifique. Bon, c'est dire que c'est vraiment ce qui est en cours à l'heure actuelle, je crois, avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est en réalité de plus en plus la restriction de nos libertés. Pas seulement d'ailleurs le néolibéralisme au sens politique du terme, mais au sens aussi, je dirais, scientifique et technique. Je veux dire, il y a une pression absolument extraordinaire maintenant pour restreindre nos libertés, qu'il s'agisse par exemple en matière de plantes cultivées. On interdit, et il y a tout un tas de tomates qui sont encore vendues à l'heure actuelle sur les marchés par des petits agriculteurs, qui sont des tomates qui ne sont pas inscrites au fameux catalogue de l'UPOV, là, et qui sont des tomates illégales. Ce qui est légal à l'heure actuelle de vente, c'est les tomates les très belles tomates vendues dans les supermarchés, produites à Almeria, dans un déluge de pesticides et par une main-d'œuvre qui est, acculée à vivre dans des conditions épouvantables. Et c'est ça, c'est autorisé par l'Europe. Mais la tomate de proximité ancienne, cultivée proprement, ça, c'est interdit. Nos libertés ne sont pas en jeu là, c'est un exemple très précis. Et après, maintenant, vous avez toutes nos libertés, elles sont en cause aussi avec tous les moyens techniques qu'il y a, les téléphones mobiles. Bon, j'ai jeté le mien. Je peux inviter les gens de Radio Grenouille qui écoutent de jeter leur téléphone mobile aussi. Hein, c'est un instrument de flicage absolument épouvantable. La carte bleue, c'est un instrument de flicage. Et puis, vous avez les fameuses puces à radiofréquence qu'on va retrouver littéralement partout.
Concrètement, les semenciers et les grandes entreprises internationales qui interviennent dans ce domaine sont évidemment très angoissés à l'idée qu'on puisse pirater leurs produits, puisqu'ils appellent ça des produits. Et ils développent un arsenal tout à fait extraordinaire pour protéger leurs, entre guillemets, créations. Et il y a notamment un domaine, une manipulation génétique que j'aimerais que vous décriviez et qui s'appelle le Terminator.
Terminator, c'est, je vous l'ai dit, le but de notre société de profit, c'est un but mortifère, c'est un but de mort, c'est un but qui consiste à séparer la production de la reproduction, faire en sorte que la production soit entre les mains des agriculteurs, et la reproduction doit devenir le monopole des fabricants d'agrotoxiques. Bon. Donc, c'est vraiment cette contradiction qui est au cœur de la vie dans notre société. Et donc, très naturellement, si je puis dire, par transgénèse, on a mis au point une technique qui permet de fabriquer des semences qui vont germer normalement, la plante va pousser normalement, elle va faire des fleurs normales, mais au moment où le germe du grain se forme, eh bien, la plante a été programmée pour aller tuer le germe du grain en formation. Ce qui fait que l'agriculteur récolte un grain qui est stérile. Voilà, bon, ça c'est la technique Terminator. Alors bien sûr, ça a provoqué un véritable haut-le-cœur. C'est une technique répugnante. D'ailleurs, c'est Monsanto qui avait déposé le brevet dans 85 pays au monde après avoir racheté l'entreprise qui avait inventé ça, avec la recherche publique d'ailleurs. Oui, c'est toujours très intéressant de préciser que c'est la recherche publique américaine qui a mis au point ce genre de choses. Les fameux hybrides qui sont la première forme de Terminator ont été mis au point par la recherche publique américaine. Pour les gens qui ont des illusions sur le caractère public, qu'il y aurait des différences, disons, en quelque sorte de nature entre la recherche publique et la recherche privée, qu'ils se détrompent. Hein. Bon. Donc, on est dans cette logique, encore une fois, parce que à partir du moment où, bien sûr, les scientifiques, disons, acceptent pleinement l'idée qu'il y a un secteur privé qui doit faire des profits, et que, donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, ils collaborent avec ce secteur privé, et évidemment, ils font ce que le secteur privé désire qu'ils fassent. Bon, je crois que voilà. Donc Terminator, c'est une technique de stérilisation des plantes. Il y a d'autres techniques de stérilisation des plantes que les Terminators, mais c'est une façon, si vous voulez, d'arriver à ce résultat. Alors vous avez les Terminators légales, c'est le brevet. Vous avez d'autres formes. Vous avez ce qu'on appelle les techniques de restriction d'utilisation des gènes. Ce sont des techniques qui consistent à fabriquer des plantes handicapées. Littéralement, c'est-à-dire des plantes qui seront malades si l'agriculteur n'achète pas le produit qui va l'empêcher d'être malade. Alors, je vois, on est vraiment en plein dans les sciences de la vie, là, vous voyez. Hein, bon.
Puisqu'on est dans les sciences de la vie, on va peut-être aussi leur donner un petit reflet philosophique, une question éthique en tout cas, que j'aimerais poser à Jean-Christophe Holle. On voit que la reproduction est une des conditions de la vie, et que ces procédés, ces techniques, notamment celles du Terminator qu'on évoquait à l'instant, sont en contradiction, puisqu'elles empêchent la reproduction naturelle. Alors, où se situe la frontière ? Parce que, d'un autre côté, on voit aussi un certain nombre de gens qui sont très très conservateurs, voire même réactionnaires, et qui disent qu'il ne faut absolument pas gêner le processus naturel de reproduction, et qui vont même, dans ce sens, jusqu'à interdire l'usage du préservatif, par exemple, ou de la contraception. Donc, d'un point de vue éthique ou philosophique, où se situe la frontière ?
Oui, je ne dirais pas, enfin, je vais revenir juste une petite chose, je ne dirais pas que la reproduction est la condition de la vie. La reproduction, c'est la vie elle-même. C'est pas tout à fait la même chose. La vie, c'est le processus de la reproduction. Et d'ailleurs, le rêve actuel de l'immortalité est, de ce point de vue-là, tout aussi douteux que ce dont on est en train de parler. Donc, pour en revenir maintenant à la question que tu poses, je crois que ce qui pose problème, en tout cas ce qui me pose problème à moi, c'est le fait de parler d'un coup de la vie comme une sorte d'entité mystique qui existerait en elle-même, ou de parler de la nature comme un objet absolu qui existerait en lui-même. Il est bien évident que la nature, nous la transformons de fait depuis que nous existons. Cette transformation, et n'importe quel être vivant lui-même transforme la nature en même temps qu'il vit dans la nature. Donc il n'y a pas du tout de mystique de la nature. Et la question n'est pas du tout de dire il ne faut pas toucher à la vie, il ne faut pas toucher à la nature. C'est pas ça. Si on rentre dans ce genre de discours, on va évidemment alimenter des choses qui vont finir par être tout à fait réactionnaires, effectivement. La question, elle est plutôt comment une société ou une collectivité organise son fonctionnement dans sa relation au milieu. Quels sont les enjeux, quels sont les équilibres qui se développent dans cette relation-là. Alors évidemment, c'est beaucoup moins simple. Je veux dire que la question n'est pas de dire on va protéger telle valeur que l'on va d'un coup investir d'une sorte d'aura mystique, mais la réalité est plus bassement politique, ou plus exactement, elle est à la fois sociale, économique et politique. Et ce qui est problématique en ce moment, ce n'est pas qu'on transforme la vie, c'est à quelle fin la transforme-t-on, comment la transforme-t-on, comment toutes les questions qui sont posées par ces transformations sont-elles exclues du débat public, sont-elles gommées, sont-elles recouvertes, comment des questions qui engagent nos devenirs, mais aussi nos relations, mais aussi nos modes d'existence en tant que sujet citoyen, par exemple. Parce que quand on parlait de surveillance et de contrôle tout à l'heure, ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques de l'évolution du capitalisme tel que nous la vivons, c'est bien que nous passons d'un capitalisme qui suppose une certaine liberté politique pour fonctionner à un capitalisme qui commence à supposer exactement le contraire. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus dont on peut se demander s'il n'est pas fascisant, d'un fascisme différent, larvé, quotidien, mais qui a une dimension profondément fascisante. Et nous sommes donc dans un univers du contrôle complet. Chez Monsanto, aux États-Unis, paie des détectives privés pour surveiller que les paysans ne ressèment pas les semences qu'ils ont achetées. Il y a un numéro gratuit pour que les gens téléphonent pour dénoncer leurs voisins s'ils ont ce type de pratique. Donc on est bien dans un processus dans lequel on voit se développer des systèmes de contrôle, et en plus des systèmes de contrôle qui ne sont pas tenus par l'État, ou dont l'État n'est que l'instrument, mais qui reposent en réalité sur des intérêts qui sont des intérêts privés, qui sont des intérêts qui n'ont aucune légitimité, de gens qui ne sont élus par personne, qui ne sont responsables devant personne, qui donc ne correspondent pas à un champ social. Donc il me semble que la vraie question est plutôt une question de type politique, à un sens fort et noble du terme, qu'une question purement éthique. Et je crois que si on rentre dans le débat soi-disant éthique, on risque fort de se faire piéger.
Oui, moi je rajouterais aussi que la chose dans laquelle il ne faut pas rentrer non plus, c'est sur le débat purement scientifique des risques et des bénéfices de la transgénèse, qui est le débat sur lequel les multinationales agrotoxiques veulent nous entraîner, sachant que de toute façon, ils auront 95% des scientifiques, parce que ce sont ceux qui payent ou qui travaillent, de toute façon, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils sont dans un modèle mécanique du vivant, et donc qui ne réfléchissent pas du tout aux conséquences à plus long terme, ou aux conséquences sur l'environnement, le milieu, les hommes, la survie même de l'humanité, et encore moins en conséquence sur nos libertés de ce genre de technique. Donc voilà, donc les... Oui ?
Pardon, mais même dans le domaine public, on n'entend pas beaucoup de paroles de chercheurs qui sont dans le domaine public. Portez votre parole, il en manque, on a envie de dire.
Bah oui, il en manque, on est très peu nombreux.
Pourtant,
mais parce qu'on est très peu nombreux, encore une fois, ce qu'on met dans la tête des... Enfin, moi, c'est un terme que je déteste. Enfin bon, je suis ingénieur agronome, mais bon, c'est ingénieur et agronome, c'est pas possible. Enfin, l'ingénieur, c'est quelque chose qui applique des procédures extrêmement strictes, etc. D'ailleurs, en effet, ce qu'on appelle l'agronomie moderne maintenant, ce sont des systèmes, disons, complètement totalitaires. Il n'y a pas d'autre terme. Quand un agriculteur se lève le matin et qu'il appuie sur son ordinateur et que l'ordinateur lui dit « Monsieur, vous allez, faire telle chose en fonction des prévisions météo, de l'état d'avancement des cultures », ça se passe aux États-Unis, ce genre de choses. Et ça va venir en France. Il y en a peut-être déjà qui sont déjà dans là et qui se considèrent comme de très grands agriculteurs, comme les agents du progrès et autres. Je veux dire, où est la liberté ? Sans compter que ces gens-là, si vous voulez, un jour, il arrivera que le moteur du tracteur se mettra en marche automatiquement, qu'on n'aura même plus besoin d'eux.
On arrose les champs par satellite où on repère les zones les plus humides, les moins humides, il vaut mieux arroser.
C'est quoi ça ? On voit bien comment, si vous voulez, les hommes et une bonne partie de l'humanité, on est au service d'un système de machines. Ce n'est pas nous qui nous servons des machines, c'est les machines qui se servent de nous. Et il y a une très belle expression un peu ancienne d'Adorno qui disait « c'est pas nous qui prenons le train, c'est le train qui nous prend ». Et bien maintenant encore plus. Je parlais tout à l'heure du téléphone mobile, mais c'est pas nous qui utilisons le téléphone mobile, c'est le téléphone mobile qui se sert de vous, pour vous faire travailler encore plus, pour que vous soyez constamment à disposition.
Mais alors,
c'est ça qu'il faut le jeter, le téléphone
mobile. Dans la communauté
mobile.
Des chercheurs du domaine public,
oui.
je répète encore, pourquoi n'y a-t-il pas autant que...
Parce qu'on leur a mis dans le crâne, le modèle qui domine tout l'ensemble des sciences à l'heure actuelle, c'est le modèle, alors excusez-moi d'utiliser des grands mots, réductionniste, cartésien, mécanique, c'est l'idée que, l'ensemble doit être décomposé en parties, que plus les parties sont petites, minuscules, plus la précision est importante, et que le tout que l'on va reconstituer à partir de ces parties va être la somme de ces parties. Mais ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Au moins pour le monde vivant, si vous voulez, entre la partie qu'on va considérer comme étant, dans la conception que ces gens-là ont, on va considérer que c'est le gène ou, disons, une séquence génétique donnée qui va donner un acide aminé. Ce sera la partie la plus petite, si vous voulez, qu'on puisse imaginer dans le domaine de la biologie maintenant. Bon, ensuite, il y a le chromosome, il y a le génome, il y a la cellule, il y a l'organe, il y a l'organisme, et il y a le milieu. Donc, je veux dire, et chaque niveau de complexité, chaque niveau est susceptible d'avoir ses propres méthodes d'investigation. Et ce qui est l'erreur absolue de tout cela, c'est qu'on veut absolument faire redescendre, si vous voulez, l'explication de la société par les gènes. Alors, ça donne la sociobiologie. Bon, voilà. Vous avez des crétins maintenant qui sont lus, hein, à travers le monde, qui vous écrivent des livres pour vous expliquer que si vous conduisez de telle ou telle façon, c'est à cause de vos gènes.
Eh bien, à défaut de conduire un train, je vous propose qu'on conduise maintenant un tracteur. On écoute quelques secondes de son, les Flying Tractors.
Je suis pas un des laboureurs. Des fois, j'en ai gros sur le cœur. Je voudrais chanter comme Mick Jagger. J'ai sa photo sur mon tracteur. Je voudrais être un Rolling Stone, un Fendo, roi du blues, du rock agricole, un Fendo, satisfaction. On va se faire Ferguson, moi l'exploitation agricole. J'suis né ici, j'ai pas eu poil. Le Gattetto. Je voudrais être un Gattetto. Gattetto. Pas du pouce du rock agricole. Gattetto. Satisfaction. Oh ben c'est Ferguson.
C'était les Flying Tractor, un morceau intitulé I Can Pick No, et c'est du Puy de Dôme qu'ils viennent. C'était un petit moment un peu rigolo comme ça. On va retourner à cette discussion plus sérieuse. On a abordé tout à l'heure la question juridique, et notamment au travers de la directive européenne 98-44. On a l'impression que dans ce domaine juridique, c'est le flou le plus total, enfin, qu'il y a un certain nombre d'organismes internationaux ou nationaux qui chacun ont leur propre réglementation, parfois contradictoire, parfois pas très nette. Quelles sont les bases juridiques actuelles dans le domaine de l'ingénierie génétique, et notamment peut-être évoquer à l'occasion un protocole un peu plus récent qui date de 2002 et qui s'appelle le protocole de Carthagène. Jean-Christophe Holl ou Jean-Pierre Berland? Jean-Christophe Holl.
Le protocole de Carthagène. Oui, c'est le protocole de Carthagène, c'est un accord international d'un certain nombre de pays. Il y en a, je crois, plus de 50 maintenant qui l'ont signé. C'était le seuil nécessaire et qui donne la liberté à ces pays de refuser l'implantation des OGM sur leur sol. Bon, il y a toute une autre...
Des chimères génétiques.
Voilà, en général, donc des chimères génétiques. Donc, il y a une... ce qui est intéressant, surtout dans le protocole de Carthagène, c'est d'une part donc la résistance ou l'inquiétude au développement de ce type d'industrialisation agricole existe et se manifeste à l'échelle politique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains pays ont signé ou ensemble politiques ont signé comme l'Europe. Ou comme la France, qui néanmoins font très exactement le contraire dans leur propre pratique. Il ne faut pas oublier que la France est en train, en ce moment, de préparer des décrets, par exemple, pour réglementer le développement des chimères ou des OGM, pour que quand même les gens sachent de quoi, enfin, identifient bien ce dont on parle, tout simplement parce que le gouvernement est en train d'hésiter en période électorale à porter sur le débat public la nécessité de transposer en France un certain nombre de directives européennes, de données européennes. Bon, donc le protocole de Carthagène a une valeur symbolique, il a une valeur juridique au sens où il autorise un certain nombre de défenses, aussi bien d'États, mais aussi d'entités territoriales. Vis-à-vis du protocole de Carthagène, par exemple, le Beauvais n'est pas dans l'illégalité quand il détruit des champs d'OGM. Donc il a cette valeur-là, mais cette valeur est toute relative. Alors effectivement, il y a une sorte de confusion juridique, puisqu'on voit les mêmes qui signent le protocole de Carthagène, mais qui n'obligent rien à personne, qui simplement posent le droit de dire non, c'est pas, mais pas l'obligation de dire non. Et on voit très bien l'Europe, au contraire, développer des, comment je pourrais dire, des textes qui, eux, sont plutôt un alignement, même si le discours se tient du contraire et même si c'est le principe de précaution qui est placé en tête des conventions pour accepter la diffusion des OGM sur le territoire européen.
Une lettre ouverte, pardon.
Oui, c'est simplement, c'est une... ce que tu viens de dire là, me rappelle une réflexion de Raoul Marc Génard à propos du traité constitutionnel européen, dans lequel il disait qu'il y avait de très très grandes déclarations qui n'engageaient à rien sur le plan juridique. Par contre, les articles qui nous engageaient très sérieusement disons sur le plan juridique allaient tout à fait à l'encontre des grandes déclarations d'intention. Je veux dire, c'était manifestement une tentative de tromper les gens. Et là, c'est pareil, c'est ce qui se joue, c'est la même chose.
Sur un site de promotion vantant les OGM, où beaucoup de multinationales se rassemblent, j'ai oublié le nom du site et ce n'est pas important, il parle d'une lettre ouverte qui a été envoyée à tous les candidats à la présidentielle, qui demande plus de législation, qui se positionne tous sur cette question qui a été envoyée là, hier, le 1er mars ou avant-hier. Et donc... pour eux, il n'y a pas encore assez de législation de ce côté-là. Et l'Europe est un espoir pour eux, peut-être.
Eux, ils veulent en effet, je crois, ne pas avoir une législation qui les mette à l'abri des poursuites éventuelles, y compris même s'il y a des ennuis graves, des pathologies nouvelles qui se déclenchent à la suite de ces manipulations génétiques, parce que il faut bien voir aussi que là, on est face à des techniques qui sont littéralement suspendues nulle part. Il n'y a plus aucune base scientifique aux manipulations génétiques. Ce sont des techniques à l'état pur. Une très grande inventivité, par ailleurs, hein, très grande créativité qu'on peut admirer, plus ou moins. Enfin, ce n'est pas mon cas. Mais bon, on peut quand même le dire. Mais il y a, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, ce sont des techniques qui n'ont plus de base scientifique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, à dire le vrai. Et non seulement on ne sait pas ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'on va mettre en contact donc, l'ensemble de l'humanité avec des produits que l'on ne connaît pas. Je veux dire, la transgénèse, c'est une espèce de boîte noire. Ce qui se passe à l'intérieur des cellules, etc., on ne comprend rien. Même sur le plan scientifique. Je veux dire, ce qu'on a, c'est des espèces de bouts de chaînes métaboliques qui traînent un peu partout. On a pu qualifier ça, des scientifiques ont pu appeler à propos de ces bouts de chaînes métaboliques qui sont se reliés plus ou moins, etc. Ils ont qualifié ça d'explosion dans une usine de spaghettis. Voilà, c'est ça la biologie actuelle. Bon. Alors, il y a de quoi prendre peur quand même, hein.
Qui est qualifié aujourd'hui pour délivrer un brevet sur un OGM, sur une chimère? Est-ce que c'est l'Office mondial de la propriété intellectuelle?
Non, c'est là. Vous avez le Patent Office américain et vous avez
l'Office européen.
L'Office européen.
Et leurs compétences se recoupent, se croisent, sont différentes?
C'est la même chose, ça fonctionne sur un peu. En gros, ça fonctionne sur les mêmes bases. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est toujours. On a tendance, les multinationales, disons, partagent un certain nombre d'intérêts en commun face aux intérêts, disons, des populations. Donc, de plus en plus, le droit des brevets qui avait des différences sensibles d'un pays à l'autre est tendance à être unifié sous prétexte de marché unique en Europe et puis, disons, de libre-échange, tout ce qu'on voudra, quoi. Bon, donc, petit à petit, tout ça, c'est en train de converger pour passer entre les mains des intérêts capitalistes dominants.
Ces intérêts capitalistes dominants, enfin vous dites que les OGM sont la traduction d'un double mouvement du fond du capitalisme, l'industrialisation de la culture et d'autre part la confiscation du vivant. Et vous dites que ça c'est le dernier processus.
Oui, c'est le couronnement. Il y a en effet la question de l'industrialisation. Enfin, telle que je la vois maintenant, curieusement d'ailleurs, quand on ouvre des dictionnaires ou des encyclopédies, on ne trouve pas de... véritablement de définition. Pourtant, c'est quelque chose qui domine complètement nos vies. Donc moi, ce que j'y vois surtout, c'est la tendance à la recherche, la standardisation, la normalisation, l'homogénéité du produit. quand on passe avec la révolution industrielle de l'artisanat à l'industrie, en effet, l'artisanat, c'était l'adaptation chaque fois à une clientèle bien précise, etc. L'industrie, c'est la production de masse pour des marchés lointains ou des marchés plus ou moins lointains, de produits complètement standardisés qui doivent rester identiques d'une année sur l'autre, quoi. Et donc, il faut bien voir que, enfin, pour moi, il y a une véritable contradiction, mais fondamentale, entre la vie qui est la diversité. Si les êtres vivants ont inventé la sexualité, c'est justement pour recréer à chaque génération, rebrasser les gènes, recréer la diversité. Hein, et puis, donc, cette volonté d'uniformisation, qui est, de standardisation, qui est, disons, exigée par le système industriel. Et donc, première dimension, la deuxième dimension dans toute l'affaire, c'est évidemment la confiscation du vivant. Et là aussi, si vous voulez, il faut bien voir que pourquoi est-ce que la variété, ce qu'on appelle, quand vous avez une variété comme autrefois on en cultivait, c'est-à-dire que la variété c'était quelque chose de divers, c'était une diversité, c'était le contraire de l'uniformité, c'était une variété au sens propre du terme. C'est-à-dire que dans une variété de blé par exemple, c'était, vous aviez des plantes qui étaient différentes, hein. Vous avez une vraie variété de blé. Il y avait une allure générale. On parlait de race de blé à l'époque, bon, au 19e siècle. Hein, les Villemorin parlaient de race de blé. C'est une expression que j'aime bien parce
qu'aujourd'hui, une variété est un.
Maintenant, une variété, ce sont des plantes qui sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on a copié, on a fait des copies en nombre illimité de la même plante. C'est-à-dire que ce sont des clones. Donc, vous voyez bien.
Je voudrais juste, par rapport à ça, dire quelque chose. Oui. Parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu, bon, en tout cas en désaccord sur la réduction au drame de la technologie. Je crois qu'il ne faut pas confondre le capitalisme et la machine et le capitalisme actuel et la technologie. Ce n'est pas la même chose. Et s'il y a d'un côté une tendance à l'homogénéisation qui est évidente et qui a un sens qui est à la fois social, économique et politique, il y a aussi des potentialités de diversification tout aussi grandes qui se génèrent sur les mêmes terrains. Je pense par exemple à ce qui se joue sur Internet, qui est quand même un exemple simple et évident. C'est-à-dire qu'on est en même temps à l'époque où chacun peut retrouver des espaces de création, les faire connaître, les déployer, les développer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, on assiste sans arrêt au conflit entre ces deux tendances. Et je ne crois pas qu'on soit dans un processus unilatéral d'homogénéisation absolue. Sinon, ça veut dire qu'on serait là en train de retenir le train qui passe ou de lutter contre le cours des choses. Et ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai. Je crois surtout qu'il y a des tensions et qu'il y a des contradictions qui sont vivantes et qui sont actuelles. Et en particulier, l'un des aspects de ces contradictions, c'est la contradiction qu'il y a entre des processus d'homogénéisation dont on voit très bien la signification à la fois économique et politique qu'ils ont dans un système de surprofit et de contrôle radical, et qu'il y a d'un autre côté des processus de diversification qui sont eux aussi extrêmement puissants et recréés aussi par le terrain technologique.
Il y a là, peut-être qu'il faudrait qualifier les choses. Il faudrait qualifier les choses selon les secteurs, mais dans le domaine agricole et alimentaire, ce qui me semble clair, moi, depuis deux siècles, c'est cette tendance absolument fantastique à l'homogénéisation, à l'uniformité. La sélection n'a été possible depuis, disons, un siècle et demi, deux siècles pour les plantes ou les animaux, que parce qu'il y avait une formidable variabilité qui avait été créée par les paysans. Et les paysans, parce que les paysans vivaient dans des zones souvent en autarcie ou, disons, avec peu d'échanges avec l'extérieur, dans des zones de montagne souvent, dans des zones de montagne, si vous voulez, c'est des espèces d'isolats dans lesquelles on peut en effet, à force de génération après génération, obtenir des plantes ou même des animaux qui auront des caractéristiques spéciales. Tout ça est en train d'être balayé. À l'heure actuelle, en matière de poulet, vous avez deux types de poulet, de chair. Bon, en matière de porc, c'est à peu près pareil. C'est absolument effrayant.
C'est bien le symptôme de l'intégration économique qu'a subi l'agriculture. C'est quand même un des secteurs les plus fragilisés sur ce terrain. Voilà. Et c'est pour ça que l'enjeu agricole est devenu aujourd'hui aussi important. Parce que derrière, il y a la question de l'alimentation, parce que derrière, il y a la question d'un certain nombre de modes de vie, parce qu'il y a aussi la question d'un patrimoine de culture. Donc on est face à quelque chose de considérable. Et la question de la nourriture n'est pas une mince question. C'est-à-dire que quand un certain nombre de pays seront assujettis à des dispositifs d'alimentation qui leur échappent complètement, on sera effectivement devant des formes de domination absolument radicales.
Il y a une question que j'aimerais qu'on aborde maintenant, si vous voulez bien, et qui est tout à fait corrélative à ce qu'on a évoqué, l'appropriation du vivant. C'est la question du pillage du domaine public dans un double domaine. À la fois le fait que cette manipulation génétique, il faut aller chercher des gènes quelque part dans la nature, et qu'une plante dont on va extraire un matériau génétique va devenir ipso facto la propriété de l'entreprise qui a utilisé son gène, ce qui est vraiment une incroyable manière de s'approprier des plantes qui, par ailleurs, vivent depuis 25 millions d'années sur un territoire. Et je crois qu'on a notamment beaucoup joué à ce jeu-là dans le tiers-monde, aux Indes ou en Amérique du Sud. Jean-Pierre Berland.
Ouais. Il y a Vandana Shiva qui a une formidable image pour expliquer ce qui se passe. Elle dit supposez que vous trouviez une chaise dehors à la friche, de la Belle de Mai. Hein, vous dites cette chaise, elle est à moi. Maintenant, vous prenez cette chaise et vous la mettez dans un immeuble et vous dites, maintenant, l'immeuble est à moi. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Vous prenez un gène quelque part, hein. Vous dites, il est à moi, et vous le mettez, disons, au milieu de 30 000 gènes dans une plante et vous dites, la plante est à moi. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Et il y a un autre domaine dans lequel ce pillage du domaine public apparaît flagrant et particulièrement scandaleux, c'est l'appropriation de la recherche publique. On constate en effet que de nombreux grands laboratoires ou grosses compagnies agroalimentaires, comme Monsanto, qui a racheté par exemple le Plant Breeding Institute de Grande-Bretagne, comme en France, certaines collusions entre des entreprises privées et la recherche publique au sein d'un organisme un peu flou qui s'appelle Genoplante, ou bien aux États-Unis, Novartis, qui rachète un département de l'université de Berkeley, on a l'impression que la recherche publique est en train de se faire complètement grignoter par ces grandes entreprises multinationales.
Oui, ce qui, à mon avis, est un couteau à double tranchant. Je veux dire que la recherche publique, pour l'instant, a considérablement alimenté la connaissance et la science en général, et y compris les applications privées. Par contre, si on rentre dans des recherches qui sont entièrement privées, entièrement assujetties au secret de telle ou telle découverte, à la logique du brevet, etc., je ne suis pas du tout sûr qu'on n'aille pas vers des problèmes considérables, y compris au niveau de la recherche et de son développement. C'est-à-dire qu'on est effectivement devant une sorte de contradiction qui fait que cette recherche privée s'est nourrie de la recherche publique pendant très très longtemps, qu'elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise.
L'heure tourne et hélas, il va très bientôt falloir que nous rendions l'antenne, juste le temps de donner quand même quelques prolongements possibles à cette réflexion. Je voudrais bien entendu citer le livre de Jean-Pierre Berland qui s'intitule « La guerre aux vivants » qui est publié chez Agone.
Citer aussi.
À Marseille, effectivement. Citer aussi un polar d'Éric Le Gastelois qui s'appelle « Abandon progressif d'humanité ». C'est chez Les Cahiers du Sud et c'est à Marseille aussi. Et enfin, un site peut-être d'information, www.infoogm.org. Merci Jean-Christophe Holl, merci Jean-Pierre Berland, merci Pascal Messaoudi pour cette émission. Et je voudrais rassurer Jean-Pierre Berland, je n'ai pas non plus de téléphone portable.
Voici.